Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour l'occasion qui m'est donnée ici de parler de sociologie. Le travail de CARE fait l'objet aujourd'hui de nombreuses recherches en sciences sociales à l'échelle internationale. Le CARE, c'est une dimension, on pourrait dire, de ce travail d'intendance qui a été évoqué ce matin. Et c'est notamment dans un sens pragmatique de la notion qui revêt de multiples usages. C'est donc la prise en charge quotidienne des personnes dépendantes, jeunes enfants, personnes âgées, malades, handicapées. Alors que ce travail a été longtemps pris en charge gratuitement dans la sphère de la famille par les femmes, il est de plus en plus aujourd'hui pris en charge par des salariés dans le cadre du marché ou des services publics, dans de nombreux pays du monde, en lien avec une participation croissante des femmes, des mères, il faudrait dire, au marché du travail. En plaçant au centre de l'attention les spécificités du travail de CARE et en posant la question des ressources qu'il procure, on peut mettre au jour d'autres facettes du travail de CARE que celles qui sont déjà bien étudiées aujourd'hui. Je pense notamment aux travaux de sociologues du travail domestique qui ont attiré l'attention sur le fait que les personnes qui réalisent le travail de CARE, en Amérique du Nord notamment, mais également en Europe du Sud, étaient certes des femmes, mais aussi des pauvres et des immigrés exploités dans des emplois domestiques mal payés. Poser la question des ressources que procure ce travail de CARE, ça me semble constituer un outil analytique qui permet d'éviter autant l'idéalisme que le misérabilisme, qui sont deux postures qui guettent l'étude des activités modestes. Et cette attention aux ressources est en affinité avec le point de vue de la sociologie du travail qui s'attache à réinscrire les activités professionnelles dans la hiérarchie sociale et qui rappelle que toutes les activités ne sont pas également pénibles ni ne procurent les mêmes revenus et la même reconnaissance sociale. Mais la sociologie du travail s'intéresse aussi à la façon dont les travailleurs eux-mêmes exercent et perçoivent leurs activités à partir de leur position et de leur trajectoire dans l'espace social. La prise en charge rémunérée des jeunes enfants en France constitue un bon terrain d'enquête pour réfléchir aux ressources liées au travail de CARE, puisque le cas français invite à décaler le regard vers des métiers du CARE qui sont peu étudiés dans la recherche anglo-saxonne et européenne. Ce ne sont pas en effet en France les nannies ou bonnes d'enfants employées au domicile des familles qui sont la profession la plus nombreuse, mais les assistantes maternelles, selon une appellation qui a été introduite à la fin des années 70. Il s'agit donc de femmes à 98%, le plus souvent salariées des parents employeurs et qui gardent des enfants chez elles. Elles représentent en France, après la garde par les parents, le principal mode de garde des enfants de moins de 3 ans, loin devant les crèches et les gardiennes d'enfants à domicile. On compte aujourd'hui environ 300 000 assistantes maternelles. La France se singularise également par le rattachement croissant de ce métier qui a été longtemps situé aux frontières de l'économie domestique et du marché du travail, au droit salarial commun. En m'appuyant donc sur des recherches déjà existantes, ainsi que sur des enquêtes en cours que je mène auprès d'assistantes maternelles en Loire-Atlantique, à la fois à partir d'entretiens approfondis, mais aussi d'observations directes au domicile de ces salariés, ainsi que dans les institutions qui les encadrent. Je vais évoquer les ressources qu'elles tirent de cette activité, en allant des ressources les plus matérielles aux plus symboliques. Faute de pouvoir parler de toutes les ressources, je me centrerai sur l'argent et les droits, d'une part, et dans un second temps, sur les sentiments et les liens. L'idée que je défends, c'est que cette activité procure ces deux sortes de ressources et qu'il est erroné de penser que certaines de ces assistantes maternelles ne font ça que pour l'argent quand d'autres le feraient pour l'amour des enfants. Ce sont des représentations qui sont très répandues tant auprès des parents qu'auprès des femmes de classe moyenne qui encadrent ces assistantes maternelles. Donc un premier point, des salaires faibles, mais des droits et un pouvoir de négociation accru. Une recherche à partir de l'enquête emploi 2007 de l'INSEE montre qu'en matière de salaire horaire, qu'on calcule en croisant les gains mensuels et le nombre d'heures de garde, les assistantes maternelles sont au dernier rang parmi les employés des services à la personne, donc avec 6,8 euros bruts de l'heure en 2005, moins que le SMIC horaire à l'époque. Elles gagnent donc moins que les aides à domicile, que les employés de ménage, que les aides-soignantes ou encore les auxiliaires de puériculture. Alors c'est une moyenne qui cache bien évidemment des disparités importantes en fonction du nombre d'heures de garde et aussi de l'offre de garde et des régions qui diffèrent fortement entre elles du point de vue de l'offre en assistante maternelle. Toutefois, la faiblesse de ces salaires ne manque pas d'interroger, alors que dans notre société, la petite enfance est de plus en plus considérée comme un âge de la vie décisif, en lien notamment avec la diffusion des savoirs du psychisme et du développement de l'enfant. Si leur niveau de salaire situe donc les assistantes maternelles du côté du salariat modeste, elles bénéficient toutefois dans notre pays de nouveaux droits qui leur permettent d'obtenir une rémunération moins aléatoire que dans le passé. Donc il y a notamment depuis 2005 une nouvelle convention collective qui a visé à rapprocher le statut des assistantes maternelles du droit commun du salariat. Donc plusieurs dispositions ont contribué à stabiliser leur rémunération. En la soustrayant à l'arbitraire et à l'approximation des parents employeurs, souvent enclins, par exemple, à dépasser les horaires prévus et à oublier la dimension économique de la relation avec l'assistante maternelle. Donc, cette convention collective a introduit un contrat de travail écrit, également une rémunération horaire qui a remplacé un système de rémunération journalier qui, pendant de nombreuses années, conduisait à ne pas rémunérer toutes les heures effectives de travail. Cette convention collective que des associations professionnelles, qui sont nombreuses dans ce métier, mais également les communes ou les départements ont contribué à faire connaître, représente une ressource décisive pour ces femmes qui, quand on les interroge sur leur travail, racontent combien il leur a toujours été très difficile de réclamer aux parents et d'aborder avec eux les questions d'argent. C'est donc un écrit officiel qui augmente leur pouvoir de négociation pour affronter ce mélange d'intimité et d'économie qui caractérise leur activité. L'idée, c'est que le portrait d'un sous-emploi qui enfermait les femmes dans la précarité salariale, qui a pu être dressé à la fin des années 90, n'est plus totalement pertinent aujourd'hui. Dans les entretiens, les assistantes maternelles témoignent de leur connaissance de leurs droits et de leur capacité à les faire respecter. Un autre indicateur, c'est la montée des contentieux au prud'homme, qui constitue aussi un bon indice de ce processus de revendication des droits. Et après avoir rapidement évoqué ces ressources que sont l'argent et les droits, j'aborde maintenant le thème des ressources affectives. À l'occasion des entretiens, souvent les assistantes maternelles réagissent au mot de travail que l'on utilise en les interrogeant pour parler de la garde d'enfants. Et elles insistent, elles corrigent, elles refusent ce mot et elles disent « pour nous c'est un plaisir » et toutes déclarent également avec entrain leur amour des enfants. Plaisir, contact avec les petits, présence, amour des enfants, à quoi renvoient ces mots ordinaires sans cesse répétés ? Grâce aux acquis de la sociologie féministe qui, depuis les années 70, s'est intéressée en France au travail domestique, on doit bien évidemment lire dans ces expressions le produit d'une socialisation féminine et maternelle qui valorise les soins aux jeunes enfants au point d'éclipser toute dimension contraignante. Mais on peut aussi, c'est notre façon d'interpréter ces propos, chercher à les prendre au sérieux, à l'heure même où de nombreux acteurs de la professionnalisation de ces métiers de la petite enfance déprécient et réprouvent tous ces mots qui font allusion aux sentiments, car ils éloignent de la rhétorique professionnelle qui est aujourd'hui développée à propos de ces métiers. Pour dire les choses de façon plus concrète, les puéricultrices, les infirmières puéricultrices et les éducatrices qui encadrent ces assistantes maternelles les incitent aujourd'hui à garder leur distance vis-à-vis des familles et des enfants, à contenir leurs sentiments. Et une assistante maternelle lucide sur l'évolution des attentes institutionnelles rappelait qu'autrefois, il était très malvenu de dire que l'on souhaitait exercer ce métier pour avoir un salaire, et qu'on parlait alors exclusivement d'amour des enfants, et qu'aujourd'hui, au contraire, l'amour est devenu suspect et qu'on craint l'appropriation des enfants par les assistantes maternelles. Cette insistance sur l'amour, le plaisir, renvoie en fait à la dimension affective de ce travail. Sentiment positif, lien affectif. C'est une dimension affective qui revêt une signification importante pour les femmes qui exercent ce métier, qui sont des femmes plutôt âgées, 46 ans en moyenne en 2008, et dont les propres enfants ont grandi, ont moins besoin d'elles, et également des femmes qui ont fortement intériorisé, dans leur enfance d'abord, mais aussi à travers l'expérience de la maternité, une forte division sexuée des rôles. Ce modèle traditionnel de division du travail qui était évoqué ce matin. Et finalement, cette insistance sur l'amour invite à reconnaître, à la suite des travaux d'une sociologue américaine qui s'appelle Arlie Hochschild, qui a étudié le cas de ces bonnes d'enfants immigrés, qu'à côté des ressources matérielles, ce travail de garde des jeunes enfants procure aussi des ressources affectives. Et parler de ressources affectives, ça revient en fait à ne pas considérer que l'amour est la cause de l'investissement dans ce travail de care, mais au contraire qu'il en est le produit. Et donc si la nouvelle norme institutionnelle de distance professionnelle empêche les assistantes maternelles de détailler aujourd'hui, à l'occasion d'entretiens avec des chercheurs, ses sentiments et ses attachements, elle les suggère. Et d'autres modes d'enquête que l'entretien, comme l'observation directe, permettent de repérer des indices solides de ces ressources affectives. Alors j'en citerai quelques-uns. La poursuite de la garde, souvent de façon non déclarée, au-delà du contrat de travail, quand les enfants grandissent. Également des formes d'invitation rituelle qui se prolongent au fil des années avec les familles, avec les enfants gardés et leurs familles. Et plus concrètement encore, des visites régulières des enfants gardés et de leurs familles qui autorisent à parler de liens de quasi-parenté, une notion qu'ont proposée des sociologues qui s'intéressent à ces questions. Donc, ces ressources affectives tirées du travail de garde des jeunes enfants, ce sont donc tout à la fois des sentiments positifs qui agrémentent la vie quotidienne et augmentent l'estime de soi de ces femmes. Je ne l'ai pas assez dit, mais il s'agit de femmes qui sont relativement peu diplômées. Donc, des sentiments positifs et également des liens qui étendent et diversifient les réseaux de sociabilité tant sous le rapport de l'âge que de la position sociale. Juste quelques mots pour conclure. Donc, s'intéresser à la diversité des ressources retirées du métier d'assistante maternelle, ça permet de renouveler le regard sur les travailleuses du care en esquissant, les recherches sont encore à poursuivre, mais ce qu'on pourrait appeler l'espace social des métiers du care. Et à côté du cas des employés de maison immigrés, souvent précaires et exploités, qui sont bien étudiés déjà dans la recherche internationale, le cas des assistantes maternelles françaises fournit l'exemple d'un métier du care qui donne certes accès à des rémunérations modestes, mais aussi à des droits qui augmentent le pouvoir de négociation des femmes concernées. Et ces assistantes maternelles, elles s'inscrivent plutôt en France dans les classes populaires stables ou les petites classes moyennes marquées par une forte division sexuée des rôles. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, non ? Et finalement, en centrant l'attention tout à la fois sur les ressources matérielles et sur les ressources affectives, ce que j'ai voulu montrer, c'est que contrairement à ce qu'une sociologue américaine, Viviana Zelizer, appelle la théorie des mondes hostiles, l'intérêt financier et l'amour des enfants, mais aussi le salariat et la quasi-parenté, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, ce qui ne signifie pas, bien entendu, que leur combinaison soit toujours facile. Mais en tout cas, il faut rompre avec cette théorie des mondes hostiles pour étudier de façon juste ces activités. Merci.
Oui. Il reste 4 minutes pour quelques questions.
Bonjour. Est-ce que dans vos études, vous intégrez aussi les nouvelles formes de travail de care, beaucoup plus précaires ou avec beaucoup moins de temps de présence auprès des enfants, notamment tout ce qui passe par les associations type O2 ou les entreprises aussi qui sont favorisées par les lois donc qui permettent d'avoir des crédits d'impôt, etc. Et donc qui créent finalement aussi une troisième forme à côté de la garde collective et puis de la traditionnelle nounou, entre guillemets. Donc il y a une troisième forme qui se développe avec des formes tout à fait différentes où on voit une même personne travailler à temps plein mais avec 4, 5, 6 enfants différents. Merci.
Alors, pour le moment, je n'ai pas enquêté moi-même de façon empirique sur cette catégorie de salariés que vous évoquez. Je pense que leur nombre est croissant en France à cause des restructurations que vous mentionnez. Par contre, il me semble que leur profil correspond un peu à celui qui est déjà bien étudié par la recherche internationale davantage centrée sur ces employés de maison. Mais en tout cas, vous avez raison, dans l'espace de ces métiers, c'est une catégorie croissante qui n'est pas facile à étudier parce que souvent elle est agrégée au sein de ces associations avec d'autres activités que celles de la garde d'enfants. Et donc voilà, il y a aussi des. Mais ça fait tout à fait partie, évidemment, de l'objet de la recherche.
Eh bien, merci beaucoup. Donc j'invite M. Laurent Desvillettes et M. Régis Ferrière.
Oui, excusez-moi, donc j'ai une question. Est-ce que c'est un métier qui exige une formation professionnelle ?
Alors, merci pour cette question. C'est l'occasion de dire que cette évolution que j'ai appelée la professionnalisation a été également avec l'imposition de plus en plus d'une formation. Alors, suite aux dernières lois, actuellement, pour les nouvelles entrantes dans ce métier, c'est 120 heures de formation, dont 60 heures obligatoires avant l'accueil du premier enfant. Donc, de façon croissante, il y a exigence d'une formation. Quand on fait parler les assistantes maternelles sur ces formations, celles qu'elles valorisent le plus sont les formations juridiques. Parce que tout ce qui concerne le sommeil ou l'alimentation des enfants, elles ont l'impression d'avoir déjà une large expérience en la matière. Et par contre, sont vraiment souvent pointées les formations par des juristes qui les amènent à mieux connaître leurs droits.
Bon, merci beaucoup. Donc, j'ai...